France Culture. Les midis de culture. Marie Sorbier.
Bienvenue à toutes et à tous, prenez place, nous sommes ensemble pour 1h30 d'actualité culturelle, mais tout ici commence par la critique et au menu de ce début de semaine, deux pièces de théâtre. L'une revisite un mythe, l'autre s'empare de l'actualité, mais les deux veulent résonner avec les mots de notre époque contemporaine. Terre, mise en scène par Tamara Al-Saadi, qui a commencé sa tournée, qui s'arrête à Saint-Denis au théâtre Gérard Philippe jusqu'au 6 avril avant de reprendre la route. Et les moments doux d'Élise Châteauré et Thomas Pont-de-Vie jusqu'au 30 mars au théâtre du Rond-Point à Paris et puis en tournée. Et autour de moi, dans le studio de France Culture aujourd'hui, Anna Sigalevitch, bonjour.
Bonjour Marie.
Vous êtes journaliste et auteur, et Philippe Chevillier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service culture des Échos, bienvenue à tous les deux. Alors la mythologie regorge de mythes et de figures héroïques, mais l'une d'entre elles n'en finit pas d'inspirer les artistes. Je veux parler d'Antigone, fille d'Œdipe et de Jocaste, qui prend souvent ces temps-ci les atours de l'icône que l'époque contemporaine aime admirer, femme forte, têtue. Elle s'oppose à l'autorité et tient haut ses convictions jusqu'à en perdre la vie. Alors il y a eu Sophocle, il y a eu Anouilh, et voici donc Tamara Al-Saadi, metteuse en scène franco-irakienne qui se frotte à la réécriture du mythe Sauce 2025. Sur scène, elle tresse avec les ressorts de la tragédie un drame contemporain, une jeune fille abandonnée par sa mère, ballottée de famille d'accueil en foyer.
Antigone ! Antigone, dépêche-toi ! On ne peut pas rester au palais ! Polynice est sur le point d'attaquer, tout le monde en parle ! On doit se mettre à l'abri. Je vais préparer tes valises. J'ai pris le strict minimum. Vaut mieux pas qu'on soit trop chargé. Avec un peu de chance, ça ne va durer que quelques jours. Je regrette le temps que je lui mettais des raclées à celui-là. Il l'a ramené, moi. Quelle heure il est? Il faut peut-être manger avant de partir. T'as faim? Servante! Tu vas manger, c'est mieux. Tu vas te forcer un petit peu, d'accord? Depuis l'annonce de l'attaque, tu ne manges plus rien, ça m'inquiète. Servante!
Vous m'avez appelé, madame Ismène?
Oui, ramène une collation à Antigone, j'aimerais qu'elle mange avant notre départ.
Très bien.
N'oublie pas ses médicaments, il faut qu'elle les prenne en mangeant. N'espère pas prendre ce livre avec toi, on a dit le minimum. Antigone. Antigone. Stop !
Philippe Chevillier, pas stop, mais on va recommencer. En quelques mots, un premier avis rapide. Est-ce que Terre vous a plu ?
Alors moi, j'étais déçu par ce spectacle, parce que j'avais beaucoup aimé le spectacle La Place, qui a vu l'émergence de Tamara El-Saadi, qui avait eu le prix du Festival Impatience. J'avais beaucoup aimé son écriture. Et là, je suis déçu parce que je trouve que ce spectacle souffre d'une trop grande ambition dramatique, à la fois coudre le mythe d'Antigone revisité, et ensuite une histoire contemporaine. Et le problème, c'est que il y a un effet miroir qui est recherché par l'autrice. Et moi, je trouve qu'il n'existe pas parce que l'histoire contemporaine n'a pas grand chose à voir avec l'histoire d'Antigone. Et en fait, on court après pendant tout le spectacle. Et les deux histoires finalement se parasitent. Et je trouve que ça ne fonctionne pas. Et donc, j'étais déçu par ce spectacle.
Anna Sigalevitch, est-ce que Terre vous a parlé?
Oui, ça m'a plutôt parlé. Je suis pas tout à fait d'accord avec Philippe, parce que je trouve que les deux mythes, le mythe antique et celui d'aujourd'hui résonnent quand même, parce que ce sont deux personnages qui subissent des choses qui se sont passées avant elles et qui cherchent à récupérer à reprendre un peu la main sur leur destin et leur quête et leur perspective, si elles sont évidemment très différentes. Pour moi, ont tout à fait des résonances communes. Alors, je suis partagée sur le spectacle, hein. Je ne peux pas dire que je sois totalement enthousiaste, mais pour moi, il y a un geste, une ambition qui me touche, justement, et quelque chose quand même qui emporte.
Alors, Philippe, vous l'avez dit, il y a deux histoires, celle d'Antigone et celle d'Éden. Comment la mise en scène les tresse et les rapproche, ces deux histoires-là, et pourquoi, selon vous, ça n'a pas fonctionné?
Alors justement, c'est intéressant parce que la façon dont est conçue la scénographie, tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire la musique, la rapidité avec laquelle les acteurs et actrices se mettent dans la peau des personnages antiques ou modernes, tout ça fonctionne assez bien, c'est assez fluide. Mais moi, encore une fois, c'est sur cette histoire, parce que oui, il y a quelque chose en commun, deux adolescentes rebelles, deux adolescentes face à un pouvoir, mais c'est un peu ténu quand même comme lien. Il y a déjà, alors je trouve que on en reparlera peut-être, mais je trouve intéressant la façon dont elle revisite le mythe d'Antigone.
Oui, parce que son parti pris de départ, c'est de dire que Antigone ne parle pas, et c'est l'étymologie du mot enfant, infant, ouais. Celui qui ne parle pas.
Et surtout, on voit que les personnages sont quand même un peu modifiés. Créon devient vraiment carrément un dictateur. On voit beaucoup plus les frères et la fraternité qu'il peut y avoir entre frères et sœurs, etc. Donc il y a un côté assez émouvant Dans tout ça. Après, il y a cette histoire, effectivement, d'adolescente abandonnée, de baladée de famille d'accueil en famille d'accueil, qui parfois, par moments aussi, est très touchante. Mais encore une fois, on a vu plusieurs fois des mythes antiques qui ont été traités de façon moderne et avec des histoires qui se croisaient. Là, les histoires ne se croisent pas. Et moi, je suis désolé, je suis en quête, justement. Je pensais qu'à un moment donné, on aurait dans le personnage de cette jeune Éden un rapport. Bon, alors, il y a le rapport au pouvoir, effectivement, de l'État. Ça s'arrête là. Il n'y a pas de ce rapport avec les frères, cette façon qu'a Antigone de braver l'autorité, c'est pas la même chose, c'est pas la même histoire. Et je trouve que ça ne colle pas, et que le spectacle, finalement, bien qu'il soit fluide, traîne en longueur. Et moi, je trouve que c'est un peu chaotique. Au bout du compte, ça reste bancal dans mon esprit.
Alors, Anna, peut-être un mot sur cette réécriture. On pourrait dire qu'elle a cherché à la rendre actuelle en multipliant les phrases banales, presque quotidiennes. C'est du langage courant. On l'a écouté dans l'extrait là. Qu'est-ce que ça produit, cette écriture-là? Est-ce que pour vous, ça a fonctionné?
Alors, oui et non, ça dépend des moments. Alors, elle s'inspire beaucoup des sept contre Thèbes, hein, d'Eschyle, c'est vraiment ça. Bien sûr, il y a l'Antigone de Sophocle, mais il y a aussi ce texte-là qui l'a beaucoup inspiré, qui, pour le coup, met vraiment en scène Polynice et Théocle.
Les deux frères.
Voilà, les deux frères, pour rappeler un tout petit peu rapidement l'histoire. Oui. Les deux frères, Antigone et leur sœur, il y a aussi Ismène, et Théocle règne, mais Polynice veut revenir, et Créon dit à Théocle, attention, warning, il faut que tu te battes, parce que s'il revient, ça va être la fin de la prospérité et de la paix à Thèbes. Voilà, bon, là je résume très très rapidement, hein, donc pour revenir, pardon, à votre question sur l'écriture. Moi, la façon dont elle traite justement le mythe, je la trouve plutôt intéressante, parce que il y a cette Antigone qui est totalement muette, mais qui prendra la parole à la fin pour une très belle fin. Ce qui m'a plus gênée, c'est le côté un petit peu schématique du parcours dans l'assistance publique,
donc de la jeune
de l'histoire contemporaine, où là je trouve qu'on coche un peu toutes les cases. Alors, même si c'est vrai que ça peut se passer comme ça, et que malheureusement ça se passe souvent comme ça, mais pour vous décrire un tout petit peu, alors elle est née d'un viol, elle était dans une première famille d'accueil avec qui ça se passait très bien, mais le père était au chômage, donc il a dû être mité. Donc, bref, une très méchante directrice de l'assistante sociale l'enlève de cette famille qui était pourtant aimante. Et ensuite, là, on va de Carub en Silla, c'est-à-dire que ça, elle est ballottée d'une famille à l'autre. Ça se passe extrêmement mal, parce que cette petite fille n'a plus confiance. Et donc, quand c'est au foyer, il y a des violences sexuelles. Quand c'est dans une famille, il y a des violences. Il y a du racisme, parce qu'elle est noire, la petite Éden. Quand c'est ensuite dans une autre famille, il y a de la pédophilie. Bon, ça fait beaucoup. On se dit, waouh, elle charge la mule quand même, sérieusement. Donc ça, le côté. Alors, moi, ce qui m'a gênée, c'est le côté un tout petit peu binaire. D'un côté, les méchants, de l'autre, les gentils, de l'autre, les victimes, de l'autre, les bourreaux. Avec le bourreau moderne qui est cette Violette de l'assistante sociale et la machine qui broie les enfants, et de l'autre côté, Créon, qui est aussi un personnage assez caricatural, assez outrancier. Là, je pèse mes mots quand je dis ça. Donc oui, ça, il y a une lourdeur d'écriture certaine. Mais malgré ça, pour moi, il y a quand même déjà une forme d'ambition.
Alors, elle est où l'ambition, justement ?
Alors, elle est dans la possibilité de faire du théâtre, dans la foi dans le théâtre, dans le fait de rajouter, donc avec le côté antique, il y a un peu de fantastique, il y a des bruitages, il y a la musique, il y a quelque chose qui emporte.
Il y a des bruitages sur scène qu'on voit,
tout à fait,
et un musicien, pareil, sur scène qui intervient régulièrement.
Qui, je trouvais très très bien, qui est Bachar Marc Qualifié, qui est vraiment, je trouve, enfin, c'est très très joli ce qui joue et ce qui chante. Donc il y a quand même la volonté de faire du théâtre, de décoller, de partir, avec une scénographie qui est assez simple mais qui fonctionne bien, comme vous le disiez, Philippe, c'est assez,
un échafaudage.
Fluide. Un échafaudage, certes, mais qui se transforme quand même. Non, Marie, c'est pas juste un échafaudage. C'est aussi, c'est des bancs, c'est aussi des lucarnes. À un moment, c'est un dortoir. Enfin, c'est quand même, il joue pendant toute la pièce l'échafaudage. Voilà. Après, c'est vrai que la vraie question qui se pose, je crois qu'on est là-dessus, pour en avoir un tout petit peu échangé, on est un peu d'accord. C'est à qui ça s'adresse ce spectacle, comment il marche et qui emporte-t-il.
Alors, est-ce qu'on a une réponse pour vous? À qui s'adresse ce spectacle?
Alors moi, le soir où je l'ai vu. C'était donc à l'espace 1789 à Saint-Ouen, avec une salle qui était vraiment, je pense, plus de la moitié remplie d'adolescents. Le spectacle dure 2h10, il n'est pas évident, mais pas un bruit. Et pas un bruit d'ennui ou de « je suis avec mon prof, donc je me tais ». Non,
une attention.
Une écoute vraiment dans la salle, une salle complètement captivée, des gens extrêmement touchés. Et donc, la fonction cathartique du théâtre, je trouve qu'elle elle opère dans ce que propose Tamara El-Saadi.
Philippe, est-ce que vous êtes d'accord? À qui ça s'adresse, ce spectacle? À des adolescents? C'est un spectacle jeune public?
Entre autres, non, pour moi, c'est pas un théâtre. Ça s'adresse à beaucoup de monde. Je pense qu'il y a un vrai talent d'autrice chez Tamara El-Saadi. Je pense qu'il y a des moments, à la fois dans la partie mythologique et dans la partie, même si elle effectivement, c'est un mélo très, très poussé, il y a des moments qui sont émouvants ou qui vous emportent. Je pense que ça s'adresse un petit peu à tout le monde, parce qu'on a besoin de ce récit, on a besoin de récits. Ce que je reproche encore une fois, c'est que je crois que, et je me faisais la réflexion, je me disais, Tamara El-Saadi, en fait, elle a, évidemment, un auteur, ça met dans le théâtre, une autrice, ça met dans le théâtre ce qu'ils vivent, ce sur quoi elle travaille. Et elle a travaillé à la fois sur les mythes. Anna, vous avez bien d'ailleurs résumé qu'elle s'était pas seulement inspirée d'Antigone, en tout cas de toutes les du théâtre antique. Et puis elle a fait aussi du travail avec les jeunes ados. Je crois que c'est le spectacle Gone qu'elle a fait récemment. Et donc j'ai l'impression qu'elle a voulu un peu, enfin elle le dit d'ailleurs, lier les deux pour faire ce spectacle qui mélange en fait l'ancien et le moderne. Et encore une fois, moi, c'est le seul reproche que je fais qui m'a sorti du spectacle. Alors, pour le reste, si, d'autres reproches, je peux en avoir. Il peut y avoir des moments un petit peu empoulés, parce que finalement, qui pastiche le théâtre antique et qui sont pas tout à fait réussis dans la partie mythologique. Par moment, il y a effectivement une langue un petit peu simpliste dans l'autre partie. Mais bon, ça, je trouve qu'il y a toujours un talent d'écriture chez elle. Sur l'esthétique, en revanche, je trouve que bon, ça pourrait quand même être un peu plus. Moi, j'ai pas été très sensible. Le dépouillement, l'épure, c'est un métier. C'est un métier de décorateur, c'est un métier de scénographe, et je trouve qu'il est pas très satisfaisant. En revanche, la musique, c'est formidable, effectivement. Tous les chœurs, tout l'accompagnement musical.
Et le bruitage, ça sert à quelque chose, ce bruitage?
Oui,
sur scène,
alors, c'est pas parce que.
C'est un artifice.
Je l'ai vu dans un autre spectacle récemment au Festival Impatience. C'est vrai que le fait, c'est plutôt bien fait. La façon dont c'est mis très en avant, bon, au bout de 10 minutes, on a compris. Je suis pas sûr que ça apporte énormément. Bon, enfin, bon, ça passe et ça.
Oui, alors que la musique, elle, est vraiment ancrée dramaturgiquement dans ce qu'elle a voulu faire. On est sur deux thématiques sonores différentes.
Voilà. Et moi, c'est pour ça que je dis, quand vous me dites à quel public ça s'adresse, je pense que c'est Tamara El-Saadi a une vocation à avoir le public le plus large possible, parce qu'elle a ce talent, elle peut et on a besoin de ces auteurs et de ces autrices qui font des récits. Simplement, alors c'est facile de voilà, c'est énormément de travail et il y a plein de choses aussi dans le spectacle, mais moi j'ai l'impression qu'effectivement il faut aller plus loin dans cette volonté de coudre les mythes. On l'a vu dans d'autres, hein, on peut citer Thiago Rodriguez, je pense qu'elle aurait pu, en gardant l'histoire contemporaine, l'amener beaucoup plus vers Antigone.
Peut-être juste un mot. Ah oui, allez-y, Anna.
Oui, parce que moi je voudrais dire une autre chose qui m'a intéressée, c'est que pendant une grande partie du spectacle, je me suis dit, ah mince, il y a un côté un petit peu victimaire, c'est de la faute à ceux qui étaient avant nous, et nous on subit ça, et qui quand même le constat aujourd'hui d'une certaine jeunesse. Et donc ça m'a dérangée pendant le spectacle, je me disais toujours remettre aux anciens la faute. Et j'ai aimé la façon dont elle tord ça dans la dernière partie du spectacle, le fait que la jeune Eden interroge Antigone et qu'elle lui dise, alors peut-être qu'il ne faut pas que je dise la phrase,
pas trop,
parce
pas
que
tout.
Je gâche. Alors je ne dis pas ce qui se dit, mais en tout cas la façon dont elle l'interroge, pour moi c'est le fait d'interroger le mythe, d'interroger la littérature, donc de considérer aussi ce dont on vient d'une façon positive pour tordre le destin et rebattre les cartes et les prendre et prendre sa vie en main. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important dans le spectacle et qui me fait léber.
Alors, même. Juste un dernier mot sur la distribution. La metteuse en scène choisit de ne pas genrer les rôles. Alors, par exemple, Créon, on en a parlé, est joué par une femme. Pourtant, moi, j'ai eu l'impression que l'actrice était dirigée comme un homme, c'est-à-dire très caricaturale. Alors, pourquoi distribuer des femmes si c'est pour les faire singer le comportement masculin?
Moi, je pense que on est maintenant habitué au fait que les rôles soient parfois non genrés. En plus, on sait, hein, on l'a dit 10 000 fois que depuis Shakespeare et puis même avant. Enfin, bref, on avait des rôles de femmes qui étaient joués par des hommes. Et donc, moi, ça m'a pas gêné du tout. Après tout, qu'une femme puisse jouer un homme qui est effectivement l'image même du patriarcat, ça me dérange pas. Par ailleurs, j'ai trouvé, par exemple, que le rôle de la servante ou la fausse suivante, jouée par Rianne Larasse, était vraiment super. Ça donne effectivement une dimension, on en a pas parlé, mais il y a aussi une dimension quand même humoristique dans le spectacle. Oui. Et ça,
comme un génie d'Aladin qui débarque.
Voilà,
avec un turban.
Un petit Ludion, il joue d'autres rôles, mais voilà, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Ça pas gêné, sachant que Manon Combes qui joue Créon est quand même, moi je trouve qu'elle est une belle actrice et que ça fonctionne. Je pense que, bon, après on peut avoir c'est un peu inégal la distribution, mais enfin entre elle, celle qui et comment, tout d'un coup j'ai un trou, qui joue Antigone,
Maya Sambar
qui est très très bien.
La jeune Eden aussi, elle est super. Chloé Montero,
je l'ai
beaucoup aimé.
Et puis le garde qui est très bien aussi.
Dernier mot, Anna.
Loridi.
Oui, sur la question du genre, Marie, pour moi, c'est pas le problème qu'elle la fasse virile, c'est plus le traitement du personnage
qui est quand même très caricatural,
que je trouve caricatural, mais que ce soit un homme ou une femme, je pense que c'est plutôt ça la question, enfin en tout cas pour moi.
Allez donc vous faire votre avis. Terre de Tamara Al-Saadi, c'est au théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis jusqu'au 6 avril et puis en tournée en France.
12h-13h30, les midis de culture. Marie Sorbier.
Deuxième pièce au programme de ce débat critique, mise en scène par Élise Châteauré et coécrite avec Thomas Pondeville. Les moments doux est avant tout une enquête qui prend comme point de départ une affaire réelle. Alors souvenez-vous, un PDG et un DRH, cadre d'Air France, se font arracher leur chemise suite à un plan de licenciement massif. De là, l'enquête s'élargit et la mise en scène veut questionner notre rapport à la violence, interroge aussi ce que la violence légitime engendre et même, soyons fous, la possibilité de la douceur.
La situation est assez grave, l'entreprise va très mal.
Ah bon? Je pensais que l'entreprise avait encore fait 10% de bénéfices l'année dernière.
Soyons très clairs, Antoine, je ne vous propose aucune perspective.
Tu as cru quoi là? Qu'on était dans un jeu vidéo ou quoi?
Tu n'as vraiment rien à répondre?
À quel moment, dernièrement, vous avez ressenti de la violence?
Quand il t'a tapé et que tu t'es retrouvé le visage en sang comme ça, qu'est-ce que t'as fait?
Rien. J'ai attendu qu'il se calme, qu'il parte et je suis rentré à la maison.
Non, t'as pas réagi, t'as rien dit.
Mais ça, c'est pas possible. Enfin, tu t'es pas défendu, pourquoi? Enfin, explique-nous.
Oui, je sais pas, Jérémy, là, tu sais que tu pouvais taper, là.
Tu devais taper.
Oui, oui.
S'il faut sacrifier 15% du personnel pour en sauver 85, on va le faire.
Parce que tu crois qu'on va pouvoir sauver les 85% qui resteront? Mais on les sauvera pas, c'est ça que tu veux pas entendre. On ne les sauvera pas parce que ces gens-là vont exploser en plein vol.
Tu suis le programme, c'est tout.
Anna, qu'est-ce que vous réagissiez déjà à la bande-annonce, commente pendant qu'on écoute. Premier avis rapide, est-ce que ça vous a plu ces moments doux?
Écoutez, c'est un spectacle qui a été créé en 2023, qui, je trouve, résonne de façon quand même étonnante aujourd'hui dans son sujet. La violence, enfin, on a quand même atteint un niveau de violence aujourd'hui qu'on soupçonnait pas forcément il y a encore 2 ans. Donc c'est un spectacle qui a priori m'intéresse. Et je dois dire que j'ai quand même été déçue, parce que je trouve qu'il y a assez peu de grains à moudre et de matière à penser sur vraiment le sujet de la violence et sa légitimité. Enfin, comme vous le disiez très bien, Marie, quand vous annonciez le propos du spectacle. Donc voilà, en ce sens, j'ai été déçue. Après, j'ai beaucoup aimé j'ai énormément de sympathie pour la bande d'acteurs qui sont en scène.
Ils me plaisent
beaucoup
pas mal.
Tous les six. Ouais, voilà.
Philippe, un premier avis.
Moi, j'avoue que j'ai de plus en plus de mal avec le théâtre documentaire. Nous mettre le réel en pleine face, on l'a en plein jour, tous les jours, pardon. Et alors, il y a une forme de théâtre documentaire, on en reparlera, je pense, qui, quand il est vraiment transcendé, moi, j'aime bien. Mais là, je trouve qu'on reste un peu, qu'il n'est pas tout à fait transcendé comme il faudrait. Donc, j'ai un sentiment mitigé, parce que... À la fois, ce que je disais, le spectacle est composé de petites scénettes hein, qui mettent en abîme la violence sociale, mais pas seulement sociale, la violence en général. Et il y a un petit côté un peu léger sur le fond, à mon avis, et aussi très professoral et très très didactique qui m'agace. Mais il y a effectivement derrière des gens qui ont du savoir-faire. Ce que disait Anna, une bande de comédiens qui porte le spectacle. Il y a de l'humour et une ouverture qui me paraît intéressante. Donc voilà, sentiment mitigé.
Alors Anna, en quoi ce spectacle-là s'inscrit justement dans ce qu'on appelle le théâtre documentaire ? Est-ce qu'on apprend des choses, par exemple ?
Non. Pardon, enfin moi j'ai rien appris. Oui, parce que c'est un théâtre documentaire, parce que déjà c'est un théâtre documenté. Je crois qu'ils ont beaucoup mené l'enquête, donc il y a plusieurs choses qui sont. On part donc du point de départ, comme vous le disiez, Marie d'Air France en 2015. Il y a aussi le France Télécom Orange, l'époque où avec tous les plans, la violence sociale que ça a engendré, la vague de suicides, etc. Donc on part de ça. Et puis je crois qu'ils ont beaucoup enquêté sur la violence au travail. Ils sont allés en entreprise, ils ont parlé à des employés, etc. Donc c'est du théâtre
sociologique.
Sociologie, oui, on peut dire un peu sociologique, documenté, oui. Voilà, en ce sens, c'est ça.
Après, et comment c'est retranscrit sur scène cette masse de documents qu'ils ont collectés ?
Eh bien, c'est retranscrit en scénette, comme le disait Philippe. Et là, pour moi, le mot scénette est problématique parce que c'est une succession de moments qui vire un peu, pour moi, à la performance d'acteur. Alors, c'est paradoxal ce que je dis, parce que les acteurs sont super, et donc il y a une matière à jeu dont ils se délectent, hein, ils font vraiment leur miel de toutes les possibilités. En plus, il y a quatre niveaux, en fait, de jeu différents, parce que ils sont... des personnages par moment. Ensuite, ils sont des personnages qui jouent des jeux de rôle, parce qu'il y a tout un moment de training, de formation des cadres pour apprendre à virer efficacement et sympathiquement les employés. Donc voilà. Donc ils jouent des personnages qui jouent d'autres. Hein. Ils jouent des enfants aussi, parce que le spectacle est divisé entre moments donc dans l'entreprise, moments familiaux et scènes de classe. La scène de classe en fait est une sorte de fil conducteur qui commence, on commence avec ça. On a une image que doivent commenter des élèves, donc il y a un instit et cinq enfants. L'instit change à chaque fois, et l'image évolue, et la question est comment les enfants analysent cette image, qu'est-ce qu'ils voient dans la violence, comment ils l'interprètent, qu'est-ce qui est légitime. Donc on interroge des enfants, donc ils jouent des enfants, et ils jouent après leur propre rôle. Donc là, on est dans une forme de métathéâtre où ils jouent, eux, les acteurs qui doivent aussi prendre une décision concernant l'économie de leur troupe et de leur spectacle. Donc, il y a quatre possibilités qui leur sont offertes de type de jeu, et ils le font vraiment remarquablement, parce que, pour le coup, même si, moi, je trouve que c'est assez outrancier et caricatural, le spectacle, dans ce qu'il dit et dans ce qui se joue, mais eux réussissent à rester juste et à garder une forme de finesse avec cette matière-là.
Voilà. Alors Philippe, vous parliez de légèreté, mais est-ce qu'on la sent, cette violence dont le spectacle normalement est fait écho ? Enfin, c'est le thème du spectacle, c'est la violence. Est-ce qu'on la sent sur scène, ou est-ce que justement on reste à un niveau de performance d'acteur, de blague, de côté léger ?
Non, alors justement, c'est là, quand je disais que j'étais mitigé, il y a quand même des choses positives dans le spectacle. Pour reprendre le côté négatif, c'est qu'effectivement, on a des petites scènes de genre où on n'apprend rien, parce qu'en fait, le discours qui est dit dire, nous, au théâtre, on va dire des choses qu'on ne dit pas dans les réseaux sociaux. Si, on le dit partout, on le sait. Donc après, c'est comment on les, justement, comment on les représente, comment tout d'un coup, ça peut créer un choc. Alors, mis ensemble, on a effectivement beaucoup de scénettes. C'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas quand même trop... Alors, outrance peut-être certaines scènes, mais globalement c'est quand même assez ouvert. C'est-à-dire que c'est une vision, d'abord c'est pas centré seulement sur la violence sociale, mais sur la violence en général, puisqu'on voit aussi des parents qui s'adressent à leurs enfants lycéens qui se sont fait casser la figure, qui n'ont pas répondu ou qu'au contraire qui ont cassé la figure à un camarade. Donc il y a un prisme large.
Mais cette violence-là, elle est juste dite ou est-ce qu'on la ressent quand on est spectateur?
On la ressent, mais de façon, on essaie de nous la faire ressentir. On la ressent par moment. Alors moi, j'avoue que je sors du spectacle quand on a, par exemple, à un moment donné, on a plusieurs fois la voix de Manuel Valls en 2015. Moi, quand on me met un homme politique sur scène, la voix, c'est plus du théâtre là. C'est vraiment, je trouve qu'il, c'est vraiment. Là, ça marche pas. Parfois aussi, on a plusieurs fois la scène de la représentation par différents acteurs du DRH qui a eu la chemise déchirée en 2015, le DRH d'Air France, avec une musique solennelle. Je trouve que là aussi, c'est un peu, c'est pas terrible. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours un peu une volonté de faire de la dérision, voire de l'autodérision. Et Anna parlait de la scène où tout d'un coup, les acteurs qui sont réunis, on leur dit si on veut que le spectacle vive, il faut en supprimer un. Et c'est vraiment, là, pour le coup, ça met justement en abîme toute la possibilité d'appréhender la violence et comment on peut être très choqué par ce qui se passe dans le monde social et quand ça vous touche, tout d'un coup, chacun pour soi. Donc c'est assez intéressant.
Mais cette question de la violence légitime, qui est quand même une question... hyper actuelle, est-ce qu'elle est traitée? Est-ce qu'ils y répondent? Est-ce qu'il y a un point de vue dans ce spectacle?
Alors, le point de vue, si je puis me permettre...
Pardon, excusez-moi.
Non, mais c'est...
Philippe et après Anna.
Non, parce que c'était à toi de parler, à vous de parler. Donc, ce que je voulais dire, c'est que justement, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il ne nous donne pas de... Même si on a l'impression d'être un peu à l'école, puisqu'à l'école, le management oui. et l'école avec les élèves, on nous donne pas de leçon, une ouverture. Et d'ailleurs, la dernière phrase du spectacle est à cet égard vraiment. On nous met le doute. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant que justement que ça soit pas didactique à ce point, qu'on nous donne pas une leçon sur la violence systémique pendant le spectacle. Non, c'est ouvert. Et ça, je trouve ça plutôt positif.
Anna, dernier mot sur cette violence légitime.
C'est vrai ce que dit Philippe. Il a raison. La dernière phrase est ouverte, mais. J'ai envie de dire, heureusement, il manquerait plus qu'on nous dise la violence c'est mal ou la violence c'est bien. Non, mais moi j'attends autre chose. Enfin, cette dernière phrase, je vais la dire, hein, pardon, sans en rien, c'est est-ce qu'il existe des violences justes? Une heure et demie de spectacle pour nous dire à la fin est-ce qu'il existe des violences justes? Pardon, je trouve ça très très court.
Mais le spectacle n'a pas de point de vue, juste en un mot.
Non, je trouve que le spectacle n'a pas vraiment de point de vue. Effectivement, le spectacle opère en retournement du point de vue de l'un, de l'autre, etc. Avec, à la fin, ces acteurs qui sont ensemble. Mais pour moi, là où, par exemple, je sais pas, évidemment, on pense à Michel Vinavert qui va vers quelque chose d'universel et qui eux restent pour moi collés aux vitres de leur sujet sans le transcender.
Les moments doux, c'est au théâtre du Rond-Point à Paris jusqu'au 30 mars, puis en tournée notamment les 10 et 11 avril au théâtre d'Angoulême. Vous retrouverez bien sûr toutes les dates et les informations de ces deux spectacles sur la page des Midi de Culture sur le site France Culture.